La première, podcast.
Le Forum de Midi. Le Forum de Midi.
Xavier Van Bugenhout.
Bonjour à toutes et tous. Le nombre de violences policières est-il en hausse? Ces derniers mois, plusieurs cas de violences ont été rapportés par les médias et selon la Ligue des droits de l'homme, le nombre de signalements est effectivement en hausse. Alors, ce type de signalement concerne tout type de public. Comment interpréter ces chiffres? Comment la police et les autorités se préoccupent du phénomène? Si vous avez été victime d'un comportement violent, inadéquat de la part de la police, on attend vos témoignages, bien évidemment. Quels sont les droits de la victime en de pareilles circonstances, on en parle avec vous dans le forum de ce midi.
Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be.
Et vous réagissez aussi via la page Facebook de l'émission au 02 737 37 07 par SMS 6031, 50 centimes. Le message, nos invités, ce midi tout d'abord le commissaire Eddy Lebon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national du syndicat de la police CIPOL. Également parmi nous, le commissaire Roland Thiébaud. Bonjour.
Bonjour.
Coordinateur opérationnel et porte-parole de la zone de police Nord, Scarbec, Saint-Just-Naude et Evere. Laurent Quenesse, bonjour à vous.
Bonjour.
Avocat pénaliste, maître de conférence à l'ULB. Également parmi nos autres invités qui nous rejoignent à l'instant, c'est Olivier Stein. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous êtes avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plusieurs affaires rapportées dans les médias. Tout récemment, on pense au week-end dernier, cette dame d'une cinquantaine d'années à Ixelles qui accuse la police de l'avoir brutalisée. On a eu l'affaire Mortsel avec ce jeune homme maîtrisé par plusieurs policiers dans un commissariat près d'Anvers. Alors, vous avez constaté à la Ligue des droits de l'homme une hausse des plaintes. Qu'en est-il précisément? Une hausse des signalements?
Oui, donc c'est les seuls chiffres sur lesquels on peut se baser, hein, mais on constate effectivement à la Ligue qu'il y a un nombre de plus en plus important de plaintes qui sont déposées. Et le comité EP fait le même genre de constat, puisque dans son dernier rapport, il souligne une augmentation des plaintes.
Ouais. Une hausse du nombre de signalements pour violences policières, et puis c'est vrai que du côté de l'opinion publique, il y a eu plusieurs affaires assez retentissantes ces derniers mois, j'en parlais. Toutes ces affaires n'ont pas été jugées, attention. Alors est-ce qu'il y a effectivement une recrudescence de ce type de problème? Est-ce que vous le constatez ça à la police, Roland Thiébaud?
Ben effectivement, pour la zone de police, donc de ma zone de police, on a une vingtaine de plaintes qui ont été enregistrées depuis le début de cette année. Il faut savoir qu'il y a une très faible proportion de ces plaintes qui sont réellement fondées. Ce qu'on assiste, une tendance qui se développe de plus en plus, ce sont des plaintes infondées pour échapper à ses propres responsabilités, de personnes qui sont effectivement interpellées par les services de police pour des faits judiciaires très précis. Et qui pour un peu, si on veut dire, jeter le discrédit sur l'intervention, vont déposer des plaintes infondées.
Ouais. On peut peut-être expliquer quelle est la procédure à suivre lorsque quelqu'un se dit victime de violences policières ou d'avoir été victime d'un traitement inadéquat. On porte plainte où ça? Comment, Laurent Quenesse?
Alors, tout d'abord, on dépose plainte entre les mains des services de police, dans un autre commissariat généralement que celui où les violences auraient été exercées. Mmh. Et il existe des services spécifiques compétents, que ce soit au sein d'une zone locale. Hein, il y a le service de contrôle interne qui peut effectivement traiter ce type de dossier, ce type d'enquête, sous l'autorité du parquet, puisque c'est évidemment une infraction qui aurait été commise. Il y a également des services spécifiques au sein de la police fédérale. Il y a le comité permanent, qui est également compétent spécifiquement pour les plaintes déposées contre des services de police. Et puis, il y a surtout les procédures classiques en matière pénale. On peut déposer plainte entre les mains du procureur du roi et entre les mains du juge d'instruction, ce qui est régulièrement conseillé pour être certain d'avoir une enquête qui est fouillée et avec un aboutissement, quel qu'il soit, que ce soit une décision de non-lieu ou que ce soit une décision de condamnation.
Et vous parliez du comité paix. Il y a seulement 10 à 12 % de plaintes qui sont acceptées in fine et qui sont jugées fondées par le comité paix. Ça paraît tout de même très peu.
Alors, ça paraît effectivement très peu. Et il faut savoir que la Belgique a été récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'ils estimaient que l'enquête qui était menée, alors dans le dossier qui leur était soumis, mais ça devient récurrent, que les enquêtes n'étaient pas suffisamment fouillées. Or, l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que la procédure qui est donnée à une personne qui est victime de violences policières doit être particulièrement fouillée, donc doit être encore plus précautionneux dans ce type de plainte pour l'analyse de ce type de plainte que dans d'autres cas. Et d'ailleurs, il y a une sorte de présomption qui pose problème d'ailleurs sur le plan pénal. La Cour européenne des droits de l'homme considère que si une personne sort d'un commissariat où il a été privé de liberté et qu'il est blessé, il y a une présomption que c'est bien de la responsabilité des enquêteurs et des services de police qui ont procédé à l'arrestation et qui l'ont maintenu en détention. Ce qui peut parfois poser problème, parce qu'évidemment, un policier, comme toute autre personne, est présumé innocente.
Ouais. On a reçu quelques témoignages de personnes qui expliquent avoir été victimes de violences policières. Voilà, je vous livre l'un de ces témoignages. Il y a un certain temps, nous dit cette personne qui a publié ce message sur lapremière.be, suite à une action de protestation au tribunal de Courtrai, j'ai été embarqué par la police. Quand il y avait des badauds qui assistaient à la scène, ils ont été corrects. Une fois dans les couloirs du commissariat, leur attitude a changé. Ils m'ont entraîné en me tirant par les cheveux, ce qui ne laisse pas de traces, en me donnant des coups de pied à tel point que j'ai dû appeler un médecin une fois rentré chez moi car j'ai fait un collapse. J'ai demandé un certificat médical mais mon médecin généraliste me l'a refusé disant que c'était inutile car ma parole ne pesait pas aussi lourd que la leur. Je crois que des cours de psychologie devraient faire partie de leur formation car il y aurait eu moyen d'aborder la situation différemment. Bonne journée. Olivier Stein, par rapport à ce témoignage, c'est le genre de témoignage que vous recevez également à la Ligue des droits de l'homme ?
Oui, je dirais, on entend un témoignage comme ça minimum une fois par semaine. Mais je veux d'abord réagir à cette idée.
Ici, juste un cas un peu particulier, on est dans le cadre d'une manifestation, visiblement.
Oui, alors je vais revenir là-dessus aussi, mais donc, je voudrais d'abord réagir à cette idée que un faible pourcentage des plaintes seraient fondées. Je trouve que c'est un raisonnement circulaire qui fait vraiment insulte à notre intelligence, puisque ce que nous disons, c'est justement que les structures posent problème, qu'il n'y a pas de contrôle effectif des policiers, que dans la pratique, le comité P n'est pas indépendant. Et donc, après, eux tirent argument du fait que justement, ils ont estimé que toute une série de plaintes n'était pas fondée, mais c'est justement ce qu'on leur reproche, de ne pas faire des enquêtes correctes et de ne pas faire une étude complète de la situation.
Oui, Eddy Lebon.
Ben, écoutez, il faut réagir à cela, évidemment. Tout d'abord, les chiffres sont-ils en hausse? Moi, je vois et je regarde hier le site de la Ligue des droits de l'homme et je lis qu'en fait, la Ligue des droits de l'homme constate que la proportion de plaintes contre les policiers est en baisse entre 2010 et 2011. Alors, effectivement, on peut faire comme le fait la Ligue des droits de l'homme, ouvrir un site qui est manifestement un appel à la délation. Moi, je trouve que c'est même une démarche extrémiste, parce que évidemment ici, sous prétexte du fait qu'on n'a pas assez de plaintes contre les policiers, ben on veut inciter à la limite les citoyens à déposer ces plaintes. Et effectivement, c'est quand même un minimum de vérifier pénalement, judiciairement, si ces plaintes sont fondées. Que veut la Ligue? Qu'on constate, qu'on condamne des policiers sans même leur laisser un droit à la défense, sans faire d'enquête? Alors, excusez-moi, mais dire que le comité P n'est pas crédible, ou même que l'inspection générale ne l'est pas non plus, que le parquet n'est pas crédible non plus, parce que je lis qu'en fait il est inféodé au ministère de la Justice, etc., etc., c'est aussi une insulte à l'intelligence des gens. Mais je ne nie pas qu'il y a des violences policières, et quand elles sont dévoilées et qu'il y a évidemment des preuves, elles sont punies. Bon, je remarque que par exemple en 2011, le conseil de discipline a prononcé 106 sanctions disciplinaires dans ce cadre.
Ouais, 106 sanctions disciplinaires, nous dit Eddy Lebon. Quelque part, ça veut dire aussi que le système fonctionne, qu'il n'y a pas d'impunité pour les violences policières.
Il faut voir quelle est la nature des plaintes en question, quelle est la nature des plaintes qui sont traitées. Il faut voir aussi quelle est la sanction disciplinaire en question. Je pense à un policier qui avait quand même sérieusement tabassé une militante sous les images des caméras. Bien, effectivement, ils ont prononcé une sanction que le conseil de discipline estime lourde, c'est-à-dire une suspension pendant 4 mois, mais la personne était autorisée à reprendre sa fonction de policier après 4 mois, alors qu'elle avait manifestement montré qu'elle n'était pas capable de la maîtrise qu'on peut attendre d'un policier. Ce que j'ai dit sur le comité P, je le maintiens, et c'est pas mon avis uniquement, c'est l'avis du comité des droits de l'homme de l'ONU, qui le 22 octobre 2010 a dit qu'il y avait un problème d'indépendance du comité P. C'est la position du comité contre la torture de l'ONU qui dit qu'il y a un problème de composition. Et finalement, c'est très logique. Le service enquête du comité P, il est composé essentiellement de fonctionnaires de police. Ouais. Ils sont nommés pour 5 ans. ils sont renouvelables, mais ils n'ont pas provocation de rester dans le comité P. Donc c'est pour la plupart des anciens policiers qui sont appelés à redevenir policiers ensuite. Et on voudrait nous parler d'indépendance. Je vous rappelle aussi, et je trouve que ça n'a pas été assez souligné à l'époque où ça a fait scandale, que le 2 octobre 2010, on s'est aperçu que le numéro 2 du comité P était lié à des néo-nazis, qu'il avait déjà participé à des affaires de vente d'armes en 2006 et qu'on n'avait pas jugé nécessaire de le démettre de ses fonctions. Alors franchement, si on constate pas là à ce niveau qu'il y a un gros problème avec le comité P, je ne sais pas ce qu'on attend.
Oui, Roland Thiebaud, vous voulez réagir en tant que porte-parole de la zone de police Nord-Bruxelles?
Oui, moi je ne suis pas venu ici pour faire le procès du comité P. Moi je suis venu ici pour parler de violences policières. Et quand je dis que la majeure partie des plaintes qu'on reçoit chez nous sont infondées, on se base sur nos caméras donc, de surveillance dans nos commissariats, caméras qui sont objectifs. Donc, et à chaque fois qu'il y a une plainte, les images sont analysées et c'est comme ça que moi je peux vous dire actuellement qu'il y a une faible proportion de plaintes qui enregistrées qui sont véritablement, donc qui se basent sur des faits précis. Voilà. Ouais. Ces images ne peuvent être truquées, ces images sont à la disposition de la justice et elles sont chaque fois saisies pour comme preuve. Tant et si bien que les dénonciations calomnieuses, puisqu'on peut parler de ça, hein, de soi-disant violences policières, font l'objet maintenant de nouveaux procès-verbaux à charge des personnes qui les profèrent, quand on a la certitude effectivement qu'il n'y a pas eu de violences policières. Donc il faudrait aussi remettre un peu, on s'équipe de caméras que l'on dit des caméras objectives, c'est justement pour garantir donc ce genre de fait.
Ouais. Vos avis, questions, vos témoignages sur ce débat ce midi concernant les violences policières au 02 737 37 07 sur lapremière.be ou via la page Facebook de l'émission. À tout de suite.
Vos avis, questions et commentaires par SMS au 6031.
50 centimes le message ou via la page de l'émission sur Facebook, La Première, le forum de midi, sur lapremière.be. Le nombre de violences policières est-il réellement en hausse? On en parle avec nos invités, le commissaire Eddy Lebon, secrétaire national du syndicat de la police CIPOL, Olivier Stein, avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, commissaire Roland Thiebaud, qui est le coordinateur opérationnel de la zone de police Carbet, Saint-Josse-et-Vert, et Roland Rankenès, avocat pénaliste et maître de conférence à l'ULB. On va accueillir par téléphone un auditeur qui souhaitait intervenir et qui était victime d'une intervention musclée de la police. Noël, bonjour à vous.
Oui, bonjour monsieur.
Oui, on vous écoute, Noël, vous souhaitez...
Ce que moi je veux, c'est apporter un témoignage, donc un véritable acte de barbarie, moi j'appelle ça, dont j'ai été victime de la part des policiers de la zone Semoëlès de Beuchtry. J'ai 65 ans, je suis pensionné, j'ai trouvé toute ma vie comme préventionniste et chef de sécurité, donc tout à fait en dehors de la violence. Mm-hmm. Je n'avais jamais commis d'impair, ni de faute dans ma vie, je n'ai jamais été condamné.
Mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Sur base d'une seule et simple déclaration délatoire qui n'a jamais été vérifiée, j'ai été agressé dans mon domicile par deux policiers. Il était 10h au soir, je regardais le Diable Rouge à la TV. Deux individus sont rentrés, c'était pas fermé, ils se sont précipités sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de me lever de ma chaise. Il y en a un qui est passé derrière et il m'a étranglé à la gorge. L'autre était devant moi et il poussait sa main dans mon visage. À ce moment-là, je ne savais même pas que c'était des flics, ça avait été trop vite. Alors, j'ai étouffé, monsieur. J'ai senti que je mourrais. Ça fait très mal de mourir étouffé. Mais ben bon, je suppose que quand j'étais en train d'étouffer, parce que j'ai perdu connaissance, ouais, il y a celui qu'ils ont arrêté. Je suis revenu à moi, heureusement. Ils m'ont jeté en terre. Moi, je criais, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont jeté en terre, ils m'ont menotté au sol. Ils m'ont relevé, ils m'ont pris, ils m'ont foutu dans la camionnette, enfin, un véhicule Volvo. Depuis, je dois être opéré parce que j'ai le nerf radial de la main qui a été déchiré tellement qu'ils avaient menotté fort. Je criais, ça fait mal, lâchez la menotte. Ils n'ont jamais voulu, monsieur. Voilà. Alors, ils m'ont embarqué 24 heures au cachot à Beuchtry, monsieur. 24 heures au cachot. Et puis, on m'a foutu dehors. Dit, ok, rentre chez toi. Je n'avais pas de papier, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien du tout. Et voilà. Et j'étais dans. Et maintenant, ben, j'ai dû prendre un avocat et on les attaque au tribunal et ça va passer au tribunal à Neuchâtel. C'est comme ça que la police, moi, elle laisse de Beuchtry fonctionne, monsieur.
Et donc ils sont entrés chez vous sans même vous adresser la parole et vous ont directement brutalisé physiquement.
Direct, ce que je viens de vous dire, okay. Exactement. Ils sont rentrés, moi j'étais dedans, mais j'avais pas fermé, ils sont... Avant, quand j'ai entendu du bruit, le temps que je me lève, j'étais étranglé. Ils m'ont pas demandé, ils m'ont pas dit. Bon, je vous dis, je savais même pas à ce moment-là que c'était des flics. Ouais. Je savais même pas. C'est quand j'étais en terre que j'étais revenu en moi que j'ai vu que c'était des flics.
Merci. Oui, mais merci Noël de votre témoignage. On fait réagir nos invités là-dessus. Tout d'abord, peut-être sur la procédure à suivre dans ce cas-là. Noël explique qu'il a déposé plainte. Ça va être traité par le tribunal de Neuchâtel. Je me dis, c'est le tribunal correctionnel ou
tribunal correctionnel, oui. Ouais. Bien sûr.
Forcément, alors là, je me tourne vers vous, Roland Thiebaud, ce type d'intervention, sans même adresser la parole, si les faits sont avérés, c'est totalement inacceptable, j'imagine.
C'est difficile de...
Évidemment, on a un seul témoignage de ce monsieur
que je respecte, évidemment. Effectivement, dans des procédures d'intervention, il faut s'identifier clairement. Même si quand on est en uniforme, les gens ont le droit de nous demander la production de la carte de service, même quand on est en uniforme. Donc il y a des règles à suivre.
Ouais. Quand une affaire...
Il y a des motifs à donner aussi, d'interpellation, etc. Donc, et les gens doivent avoir connaissance de leurs droits dès les premiers moments de l'interpellation. Donc ce sont des procédures qui, s'ils n'ont pas été respectées, sont évidemment contraires aux règles de déontologie.
Ouais. Laurent Kenness, une affaire comme celle-ci qui passe en justice, comment est-ce qu'on traite ça? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Alors, le problème se pose souvent au niveau des enquêtes, c'est-à-dire que mais c'est récurrent en matière judiciaire malheureusement, mais les enquêtes ne sont pas toujours menées avec toute la fougue qu'il faudrait, on ne fait pas toutes les vérifications qu'il faudrait, donc ça dépend beaucoup du magistrat qui est en charge du dossier. On parle beaucoup du comité P, mais s'il y a une plainte pénale, le comité P, il travaille sous le joug du magistrat, que ce soit magistrat du siège dans le cadre d'une information judiciaire ou du juge d'instruction lorsqu'un juge est saisi. Et quand on a un magistrat qui tient les rênes de son dossier, l'enquête est bien menée, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas, et c'est d'ailleurs l'objet de la condamnation, la raison de la condamnation de l'État belge. Il faut se dire aussi que par rapport à... Une fois qu'on arrive devant le tribunal correctionnel, malheureusement, on arrive souvent, comme toujours en matière de justice pour le moment, on arrive assez tard, et donc les sanctions sont d'autant moins sévères que l'on arrive tardivement. Alors je ne suis pas un partisan des sanctions les plus lourdes comme étant la solution à tout problème, mais on voit que les magistrats du siège, devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, sont régulièrement plus sévères parce qu'il s'agit de policiers. Et d'ailleurs, c'est une circonstance aggravante. Hein. On vise plus facilement le traitement inhumain et dégradant au titre d'infraction que lorsqu'il s'agit d'un policier, que lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'est pas policier.
Oui, parce qu'il y a certains avocats qui estiment aussi que lorsqu'il s'agit de poursuites contre des policiers, les différentes instances judiciaires, magistrats, etc. sont pas très coopérants parce que c'est délicat de poursuivre des policiers avec qui ils travaillent.
Au niveau de l'enquête. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, et j'entendais les explications qui étaient fournies par rapport au comité P, mais de manière générale, par rapport, si on prend des enquêtes qui sont menées parfois par un service de contrôle interne, ils doivent mener une enquête à propos de leurs collègues qu'ils voient dans le même commissariat. C'est extrêmement compliqué. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir systématiquement un magistrat et le comité P qui... peut-être pas totalement indépendant, mais qui tout de même mène des enquêtes par rapport la plupart du temps à des gens qui ne connaissent pas. Mais si le magistrat est derrière, généralement les dossiers sont bien traités, mais le problème se pose de manière générale. Mais vous avez raison sur le reste, c'est effectivement, quand j'entendais les propos des intervenants pour le service de police, ce sont les premières victimes finalement de ces violences policières parce que c'est évidemment problématique et ça donne une réputation négative alors par rapport à une profession qui, de manière générale, est une profession tout à fait respectable. Donc il ne faut pas stigmatiser la manière dont ça se passe. Et parfois, vous avez des policiers qui font l'inverse, qui quand ils mènent une enquête, vont trop loin parce qu'il s'agit de collègues et que ça les embête. Donc voilà, c'est toujours difficile, effectivement. C'est comme pour les avocats qui jugent les autres avocats, ça pose effectivement beaucoup de difficultés, ou qui mènent une enquête par rapport aux autres avocats.
Ouais. Olivier Stein, par rapport au témoignage de cet auditeur, est-ce que la Ligue des droits de l'homme peut accompagner, faire quelque chose? Comment est-ce que vous avez signalé, par exemple, ce problème?
Donc, l'observatoire Obspol qui a été mis en place vise justement à rassembler des plaintes pour se faire une idée réelle de la situation. On peut rarement efficacement accompagner les personnes. On les renvoie généralement vers des avocats pour qu'ils puissent assurer leur défense. On a une vocation à essayer de faire avancer la question de façon générale, pas à intervenir sur chaque cas particulier, même si on en met certains en avant. Et je pense qu'effectivement, des exemples permettent de se rendre compte de ce qui nous inquiète. On a parlé des vidéos un peu plus tôt. Moi, je disais dans la capitale du 6 mars 2013 qu'il y avait 12 minutes de vidéo qui avaient disparu quand un petit jeune de 14 ans s'était fait sérieusement enfin, il accuse la police, en tout cas, il a une gigantesque cicatrice sanglante à la tête. Ce que je vois aussi à propos des pratiques en Belgique, c'est que donc le 10 mars 2009, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Belgique pour torture et traitement inhumain et dégradant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, pas une seule enquête. Pendant 10 ans, on a laissé une affaire sans l'analyser, alors que la personne avait perdu une partie de son acuité auditive, le nez avait été cassé. C'est l'affaire Shakir, effectivement. Et ce que je veux dire, je trouve le témoignage intéressant de ce monsieur aussi. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens croient que, à partir du moment où ils n'ont rien à se reprocher, ils ne sont pas concernés. C'est une phrase qu'on entend souvent. Et je voudrais dire que dans les clients que je reçois régulièrement, c'est toujours des personnes qui commencent l'entretien en me disant « Je pensais que comme je n'avais rien à me reprocher, je n'aurais aucun problème. » Et c'est souvent des personnes qui n'ont pas le profil qu'on attendrait. C'est pas toujours le militant politique, même si eux sont souvent plus exposés. C'est aussi un monsieur qui, dans la circulation, a klaxonné pour faire bouger un véhicule et qui avait le malheur qu'il y ait des policiers en civil dans le véhicule qui du coup l'ont tapé. Un autre monsieur qui se rendait au mariage de sa fille, donc qui avait sans doute pas des grandes volontés de violence et qui s'est retrouvé avec la tête dans le pare-brise. Et ainsi de suite. Donc, c'est des cas concrets et c'est ça qui permet de se rendre compte que on peut pas avoir nos inquiétudes apaisées juste par des discours. Il faut un changement structurel.
Vos avis, vos questions sur la manière de traiter le problème des violences policières. On en parle jusqu'à 13h dans le forum de midi 02 737 3707 sur lapremière.be ou via la page Facebook de l'émission La Première, le forum de midi. À tout de suite.
Vos avis, questions et commentaires sur la page Facebook Le Forum de midi.
Par SMS au 6031, 50 centimes le message via la première.be 02 737 37 07. On parle des violences policières ce midi dans le forum de ce midi avec le commissaire Eddy Lebon, secrétaire national du syndicat de la police Cipol, Olivier Stein, qui est avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, le commissaire Roland Thiebaud, coordinateur opérationnel et porte-parole de la zone de police Carbet, Saint-Just et Evere, et Laurent Kennes, avocat pénaliste, maître de conférence à l'ULB. Un SMS de Gilles au 6031. La violence est toujours plus importante dans notre société, mais la police qui représente l'état de droit se doit d'être irréprochable et ne peut s'excuser sur une tendance générale de la société. Est-ce que les tests d'entrée à la police écartent les profils violents ou racistes ? Je connais des exemples où des gens en uniforme qui ne cachent pas leurs idées d'extrême droite. C'est anormal, nous dit Gilles. Est-ce qu'on écarte les profils violents, racistes à l'entrée ? Eddy Lebon.
On essaie. Bon, moi, je fais également partie de commissions de sélection du cadre de base. Et il est évident que dans la grille des critères qui sont évalués, on essaie de tester la motivation des gens, mais aussi l'absence de comportement de violence. Il y a une enquête assez poussée en matière d'intégrité, de loyauté, mais il y a des interviews avec des psychologues, un test de personnalité très poussé, et sur environ 14 000 candidats par an, seuls 10% réussissent ces épreuves, mais certains passent à travers les mailles du filet. Et on peut le regretter. Et d'ailleurs, nous le condamnons, mais à ce moment-là, en tant que policiers, parce que nous sommes les premiers noircis par les comportements de certains. Mais ceci dit, c'est quand même une minorité de faits. Mais je veux dire aussi que, on doit être formé aussi pour pouvoir résister à ce stress, résister aussi, aller maîtriser ses pulsions, etc. Mais il y a un seuil de tolérance. Je citais tout à l'heure 1060 faits par an. 107 agressions commises par des policiers en 2011, mais il y a 1060 faits en 2011 de violences contre les policiers. Ma jeune fille qui a 25 ans, qui était journaliste et qui postule dans la police parce qu'elle a envie de venir en aide aux citoyens, enfin elle est inspecteur sur le terrain, me le disait encore tout à l'heure, c'est une violence verbale quotidienne, insultée, etc. Donc au bout de quelques années, il y a un seuil de tolérance. Certains peuvent résister à ça, hein, se maîtriser, et d'autres pas, parce que il y a de plus en plus de violences verbales, mais aussi physiques, de plus en plus de risques, puisque maintenant systématiquement en intervention les policiers doivent mettre un gilet pare-balles. Il faut quand même tenir compte de ce contexte là aussi, et avoir une vision dans les deux sens, vais-je dire.
Oui, Roland Thiebaud, vous souhaitez intervenir.
Oui, je voudrais ajouter que dans le programme de formation, on a donc un important chapitre sur les libertés fondamentales, les droits de l'homme, etc. Et donc, moi-même, je suis chargé de cours et une grande partie de mon exposé porte sur les missions de la police, donc, dont le fondement se base effectivement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le but à atteindre, c'est bien sûr le respect de cette charte. Donc, les formations, à mon avis, en matière de protection des droits des individus, est suffisante, est largement suffisante, parce que c'est à chaque cours qu'on insiste effectivement sur ces aspects de nos missions.
Olivier Stein, par rapport à la réflexion des auditeurs et aux réponses que nous donnait à l'instant la police vis-à-vis de la sélection à l'entrée et de la formation.
Donc la position de la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'on pourrait renforcer effectivement la formation, mais c'est aussi qu'il y a un mauvais message qui est envoyé à partir du moment où restent dans les forces de police des gens qui ont déjà été condamnés pour violence. Et je prends un exemple qu'on peut retrouver sur le site internet de la Ligue, où il y a un journaliste qui s'appelle Michel Collomb. Il y a eu la condamnation des policiers qui l'ont gravement brutalisé, et ces policiers, on les revoit dans des manifestations. Il y a encore actuellement d'autres militants qui portent plainte contre eux parce qu'on les voit se montrer violents à nouveau. Donc moi, je me pose la question plutôt à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas écarter ceux qui se sont déjà montrés violents? Je voudrais insister aussi sur le fait que donc, nous, on ne cherche pas des sanctions importantes pour qui que ce soit, pas pour les policiers du tout. La question, c'est plutôt de revoir dans la police des gens qui se sont déjà montrés violents, qui ont un comportement inadéquat, et aussi une question de structure, c'est-à-dire la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un contrôle pour ne pas encourager ces violences, mais au contraire les combattre.
Et quelles sont les peines encourues par des policiers dont on a établi qu'ils avaient effectivement commis un acte de brutalité?
Alors, ça dépend des circonstances aggravantes, mais... Ouais. Parce que si ce sont juste des coups et blessures volontaires commises par des policiers, ou plutôt commis par des policiers, la circonstance aggravante veut simplement dire que c'est le minimum légal qui augmente. Donc ça va dépendre simplement de savoir si les coups et blessures ont entraîné une incapacité temporaire de travail, etc. Mm-hmm. Donc, mais les coups et blessures simples, ce n'est pas très élevé. De mémoire, ça va jusqu'à 6 mois de prison, donc ce n'est pas très élevé. Par contre, si vous me permettez de réagir à ce qui était expliqué il y a un instant par Eddy Lebon, quant aux difficultés de gérer une situation de crise pour un policier, il est évidemment essentiel que l'institution informe et forme spécifiquement par rapport à ce type de gestion de crise. Je ne peux pas entendre comme excuse ou comme justification qu'un policier est confronté à une situation de crise et avec des gens qui sont parfois virulents ou qui sont insultants, et du coup ça pourrait justifier ce qui a été fait. Je présume qu'on ne voulait pas me dire que c'était justifié, mais
ça explique.
Ça peut comprendre sur le plan humain, ça permet de comprendre sur le plan humain, mais c'est certainement pas acceptable. Et alors, on ne fait pas ce métier si on n'est pas capable de gérer ces situations qui sont souvent délicates. Ça, c'est un fait.
Par SMS, au 6031, 50 centimes le message. Autre problème en Belgique, absence de moyens d'identification des policiers lors des manifestations. Il devrait y avoir l'obligation d'un matricule visible pour identifier certains éléments qui abusent régulièrement de la force de façon exagérée pour les écarter de ce travail où il faut pouvoir se contrôler par essence même. Eddy Lebon, par rapport à l'identification des policiers.
Mais vous savez qu'il y a une obligation légale de porter une nominette avec un nom. Dans certaines missions, c'est impossible. Il y a actuellement un projet de loi qui vise à modifier cela, en ce sens que, comme au temps de l'agent 15, on numéroterait les policiers. Il faut voir aussi que dans...
On ne vous sent pas très favorable à ce projet?
Oh, non, ça ne me dérange pas particulièrement. Ah. Il est évident que dans certains types de missions, mais très spécialisées, il faut protéger... ceci dit, il faut toujours protéger l'identité, la vie privée des policiers. Mais dans le cadre de certaines interventions, très spécialisées, il faut aller au-delà, vais-je dire, et autoriser le port, dans certaines interventions, le port d'une cagoule pour des officiers, des policiers particuliers. Mais je veux dire que, nous ne sommes pas opposés au fait que les policiers portent un code, mais facilement identifiable, pas un numéro de matricule en 18 numéros.
Ouais. Roland Thiebaud.
Oui, pour le maintien de l'ordre, il faut savoir que depuis plus de 10 ans, on travaille sur un concept de gestion négociée de l'espace public. Et donc, que les manifestations à risque, il y en a de moins en moins. Donc, les événements contestataires sont compris par les policiers maintenant comme des évolutions normales de la société. Donc, la contestation fait partie d'un cheminement normal d'évolution de la société. Les policiers l'ont bien compris. Leur formation de base en cette matière est pointue à ce sujet-là. Les manifestations où il y a des incidents maintenant peuvent se compter sur le doigt de la main. Maintenant, il appartient effectivement à la responsabilité du commandant de peloton, du commandant de service d'ordre, de clairement identifier les problèmes qui peuvent survenir en cours de manifestation. Et s'il y a des comportements inadéquats de la part du personnel, d'intervenir directement et de donner les suites légales voulues.
Ouais. Alors par rapport aux manifestations et à la criminalisation de certains mouvements, Stéphane nous dit ceci sur Facebook, et que dire des violences policières lors des manifestations? Les arrestations préventives toujours dirigées vers les mêmes groupes, la réaction de la police lors de la tentative du No Border Camp, pour ne citer qu'un exemple, de rejoindre une manifestation syndicale alors qu'un accord avait été signé dans ce sens entre les deux parties, est insupportable, une véritable atteinte à la démocratie. Dès que des manifestants ont des revendications qui sortent un peu du cadre et qui portent de véritables alternatives, les autorités envoient leurs ouailles les plus agressives. Ce n'est pas une bavure, c'est organisé, nous dit cet auditeur. Droit de manifester, oui, mais si les revendications restent bien dans les sentiers battus, on peut sortir dans la rue pour soutenir le pouvoir d'achat, mais pas pour dénoncer le consumérisme. Une réaction, Olivier Stein, par rapport à ce que dit cet auditeur?
Ben effectivement, des arrestations préventives, c'est totalement inadmissible. Ça, c'est une chose. C'est qu'on peut pas empêcher les gens de manifester en les arrêtant préventivement et en essayant de justifier ça a posteriori.
Pour des questions de sécurité publique.
S'il y a des éléments sérieux qui font penser que l'ordre public pourrait être menacé, c'est autre chose. Mais quand il y a une manifestation syndicale et qu'on arrête les personnes avant même qu'elles se soient rendues à la manifestation, là, c'est totalement inacceptable. Et ça pose cette question, puisqu'on a posé aussi la question de l'identification. On constate que les militants sont souvent assimilés les uns aux autres et eux, on estimera qu'ils sont systématiquement responsables de ce que la collectivité a fait. Alors que dans un cas que je crois que mon confrère connaît bien, il y a par exemple le président de la Ligue des droits de l'homme et un autre avocat qui ont été tapés par des policiers qui pouvaient identifier qu'il y avait un certificat médical. Et finalement, on n'est jamais parvenu prétendument à identifier ces policiers. C'est ce qui a justifié le fait qu'il n'y ait pas de poursuite. Dans le même sens... En 2009, dans la prison de Forêt, il y a des personnes qui sont frappées, déshabillées. Je vois des coups sur les testicules. Je lis la RTBF du 17 novembre 2009. Hein. Le directeur de la prison et les gardiens de prison menacés par les policiers. Toutes ces personnes portaient des cagoules. Il y a eu tellement de coups qu'il y avait du sang sur les murs et ça se termine avec deux suspensions du prononcé. Je pense qu'il y a un problème justement en lien avec cette identification. Mmh. Et pour que cette identification soit possible, pour moi, ce qu'il faut avant tout, c'est de la bonne volonté. Et il semble qu'elle manque dans plusieurs situations.
Et par rapport à cette réflexion sur l'idée que certains mouvements seraient davantage criminalisés, Olivier Stein?
La manif récente de la FGTB, des jeunes FGTB et des JOC qui voulaient protester contre la manifestation du PP, ça a été très marqué. La manifestation du PP...
En juin 2012?
Je crois bien, oui. La manifestation s'est passée sans heurts pour les gens du PP, alors qu'il y a eu des... grave violence au rythme de go, go, go. Et c'était tous les policiers qui, collectivement, se sont montrés violents avec les jeunes syndicalistes. Et dans les propos que tenaient ces policiers, on sentait beaucoup d'agressivité et beaucoup d'hostilité vis-à-vis des opinions politiques des jeunes syndicalistes qui étaient présents dans le métro et qui ont subi des violences.
Mais Laurent Canet, vous vouliez intervenir par rapport à la question de l'identification?
Oui, par rapport à l'identification, la question se pose parfois aussi de savoir si... dans l'exemple qui était cité par Olivier Stein, le problème se posait, c'est qu'il y a une manifestation. Au cours de cette manifestation, un avocat intervient en tant qu'avocat, et avec l'autorisation du bourgmestre pour rentrer dans le lieu où étaient détenus, où avaient été privés de liberté un certain nombre de sans-papiers, et pour voir si tout se passe bien. Et puis, une fois qu'il se retrouve tout seul à l'intérieur, il est confronté à des violences. Et puis, par la suite... toutes les personnes, puisque c'était un groupe de policiers, ils ont tous fait des déclarations qui allaient dans le même sens. Ils ont dressé des procès-verbaux. Ouais. Évidemment, c'est facile pour eux. Hein. Ils sentent que ça va mal se passer. Ils dressent tous des procès-verbaux. Et après, pour la personne qui dépose plainte, c'est extrêmement compliqué de pouvoir prouver qu'il a été qu'il était de bonne foi et que dans le contexte, il a été victime de violences policières, puisqu'il y en a 10 qui sont ensemble et qui, évidemment, se soutiennent. Et quand bien même il y aurait une bonne enquête qui serait réalisée, c'est souvent très difficile dans ce type de situation.
François demande via la première.be, est-ce qu'une plainte contre les forces de l'ordre n'était pas rendue plus difficile depuis la fusion des polices? Avant, il était possible de porter plainte contre des policiers à la gendarmerie et inversement.
Alors, pas spécialement. Alors, c'est la démarche qui est difficile. Une fois que la démarche est faite, normalement, il y a différents services, mais il y aura d'autres qui peuvent répondre à ce propos-là. Mais il y a aussi le comité P qui a pris une ampleur importante depuis la réforme de police. Et puis, surtout, il y a toujours la possibilité de déposer plainte entre les mains d'un magistrat.
Oui, Eddy Lebon, par rapport à ce que
nous sommes évidemment les fonctionnaires les plus contrôlés de Belgique et sans doute les policiers les plus contrôlés du monde, hein, quoi qu'on en dise. Parce que, effectivement, c'est vrai que, comme disait Coluche, au moins quand il y a une police, une gendarmerie, gendarmerie, si les flics me tapent sur la gueule, je peux aller me déposer plainte à la gendarmerie. Ici, évidemment, vous avez encore une police locale, enfin 195 zones, avec des services de contrôle interne qui font leur travail. Vous avez une police fédérale, vous avez l'inspection générale, le comité paix. Donc on ne peut pas dire qu'il manque de services de contrôle. Et évidemment, comme le disait Maître Kenes, le recours à la magistrature, au parquet, la possibilité d'une constitution de partie civile. Donc il y a énormément de moyens pour le faire.
On va accueillir par téléphone 02 737 37 07 Mohamed qui souhaitait intervenir. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, j'aurais une question à poser et alors une petite réflexion, si vous me le permettez. La question c'est, comment se fait-il que lorsqu'un agent de police frappe un citoyen lambda, que ce soit dans les images qu'on a vues avec la jeune fille qui était menottée et qui a reçu un coup de combat de chaussure sur la figure, ou que ce soit les jeunes qui ont voulu manifester, qui se sont fait attraper dans le métro, et on pourrait continuer les cas, le malade, enfin entre guillemets le malade mental en Flandre qui s'est fait tabasser par neuf et qui est mort à cause des coups qu'il a reçus, est-ce que le citoyen lambda en faisant la même chose à un policier aurait les mêmes sanctions? Et il est là le gros problème. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids et deux mesures, dans le sens que le policier, finalement, pour le peu de fois où il y a une sanction, vraiment le peu de fois où il y a des sanctions, ce sont vraiment des sanctions administratives, mais est-ce que le citoyen lambda, lui, il a juste des sanctions administratives ou beaucoup plus que ça? Et je pense qu'il est là le problème, c'est que les gens commencent un petit peu à en avoir marre que voilà, il y a ces deux poids, deux mesures, qu'ils ne sont pas prêts, ils en ont marre d'accepter ces deux poids, deux mesures. Et peut-être la petite réflexion, je voulais faire un témoignage, mais là c'est plutôt une réflexion que je vais faire. Je me rappelle quand mon père était arrivé ici en Belgique, il me disait, ouais, la police, il parlait du bien de la police, parce que la police disait, ah, voilà, moi, un jour, j'étais tombé en panne, ils sont venus m'aider. Un jour, il avait même beaucoup de courses, ils l'ont aidé et tout ça. Et il se sentait bien en sécurité par rapport à certains pays africains. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Comment en est-on arrivé qu'aujourd'hui, les gens ont peur de la police, alors qu'on devrait justement ne pas avoir peur de la police? Et quand certains de vos invités disent que tout va bien, qu'il y a des contrôles et tout ça, je crois vraiment qu'ils vivent dans un monde de bisounours. Hein, parce que moi, j'ai eu des problèmes dans ma jeunesse avec la police. J'ai été en justice plusieurs fois contre eux. J'ai été au comité P plusieurs fois. Et je peux vous dire que c'est un monde de bisounours, quoi. Il faut arrêter. Et les gens, moi, j'ai perdu de l'argent et mon avocat, par après-midi, ça servait à rien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'aboutissement. Alors les gens, s'il y a moins de plaintes aussi, parce que les gens savent qu'il n'y a pas d'aboutissement. C'est comme, excusez-moi de comparer cela, c'est comme certaines filles qui sont violées, qui ne vont pas porter plainte. C'est pas parce que par an, vous avez 500 filles, par exemple, qui vont porter plainte, qu'il n'y en a pas plus qui se sont fait violer. Non, parce que...
On va faire réagir à Mohamed, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir également. On va tout de suite faire réagir par rapport au noyau de ce que vous évoquiez, sur la question tout d'abord des sanctions, que les circonstances, il y aurait davantage de circonstances atténuantes pour des policiers qui se seraient rendus responsables de brutalité. Est-ce que c'est vraiment le cas, Laurent Kenes?
Alors, je pense que, comme je le disais
peut-être
tout à l'heure...
dans les exemples qui ont été pris, là, notamment...
Voilà, le problème se pose de savoir si l'enquête est bien menée à la base. Si l'enquête est bien menée à la base, les sanctions sont souvent plus sévères lorsqu'il s'agit de policiers, comme lorsqu'il s'agit d'ailleurs de personnes qui portent des coups sur des policiers. Il y a aussi, dans ce cas-là, des sanctions plus sévères, et les magistrats sont sensibles à ça. Un magistrat du parquet qui prend un dossier, qui le prend vraiment à cœur, je peux vous dire qu'après, s'il arrive rapidement devant le tribunal, les sanctions sont relativement sévères. Ou en tout cas, dans la même gamme, voire mieux, qu'en ce qui concerne le lambda, pour prendre ces exemples-là. Mais par contre, il est vrai que, comme c'est très compliqué de pouvoir aboutir à une procédure, et comme notre système judiciaire est en faillite sur le plan pénal, dans la manière, dans la qualité des enquêtes, eh bien malheureusement, ces dossiers arrivent souvent très tard devant les juridictions. En plus, on est avec des personnes qui ont un domicile, qui ne sont pas en soins, un danger au quotidien, et donc ce ne sont pas non plus des personnes qui sont placées sous mandat d'arrêt, en détention préventive, et du coup, la justice est encore plus lente pour traiter le dossier.
Ouais. Et dis-le bon.
Je dirais qu'en outre, le policier, il est le seul membre de la population à être puni deux fois. Il est puni pénalement, il est ensuite puni dans le cadre, si évidemment les faits sont avérés et prouvés, ce qui est bien normal, il est également puni disciplinairement, et parfois, si les faits sont graves et avérés, il est sanctionné immédiatement par une mesure d'ordre de suspension, etc. Donc, je vous prie de croire qu'il est faux de prétendre, ou de croire en tout cas, que les policiers échappent à toute sanction.
Oui. Par rapport aux manifestations, il y avait cette question de Joachim qui nous dit « L'utilisation du spray au poivre me semble tout à fait abusive dans ces manifestations et c'est le cas de plus en plus souvent. » Roland Thiébault, le spray au poivre, dans quel cas on peut utiliser ça? Quel est le mot d'ordre là-dessus?
Le spray au poivre est une des pièces d'équipement de l'armement individuel du policier. Donc, on lui enseigne de recourir progressivement à l'usage des moyens qu'il a, parce que bon, la loi lui permet effectivement, dans des circonstances bien sûr légales, de faire usage de violence pour poursuivre un but légitime, quand son intégrité physique est par exemple en danger. Donc le spray au poivre est un moyen intermédiaire pour une alternative entre le bâton de police et donc l'arme à feu. Vous permet de garder quand même des distances de sécurité par rapport à des individus agressifs, parfois armés de cutter, de couteaux et je sais quoi encore. Donc ça, c'est un des moyens qui est mis légalement à notre disposition. Pourquoi est-ce qu'on a pris du spray au poivre? Eh bien, parce que, bon, les sprays dont on disposait avant étaient tout à fait inefficaces sur des animaux dangereux, comme les chiens. Donc, il fallait bien équiper notre personnel également de pouvoir se dégager de ces situations-là. Maintenant, le spray au poivre est très peu utilisé en maintien de l'ordre. Les cas où on utilise encore... on utilise d'autres gaz que le spray au poivre. Donc, ça fait partie des moyens légaux qui sont mis à disposition. Et avant la mise en œuvre de tels moyens, il y a une étude qui se fait. Il y a des seuils de tolérance qui sont fixés par l'autorité administrative. Et une fois que les seuils de tolérance ont été dépassés, les instructions de l'autorité administrative sont claires pour rétablir l'ordre public. Hein. Donc, ça, c'est effectivement une de nos missions, le rétablissement de l'ordre public. Il y a des circonstances où on ne sait pas faire autrement, mais au bout des dernières années, ici pour Bruxelles, le nombre de fois où on a utilisé les sprays en manifestation peuvent se compter aussi sur le doigt d'une main.
Hein. Ouais. Olivier Stein.
Le problème avec le spray au poivre, c'est qu'on touche rarement que la personne qu'on avait décidé de viser, donc tout ça pose un problème assez large. Ouais. L'autre question, c'était celle de cette histoire de double sanction. Ben, toute personne qui a un emploi va certainement subir une sanction dans le cadre de son emploi. Par contre, à l'inverse, quand c'est un policier et qu'il a déjà été sanctionné disciplinairement, généralement, le tribunal en tiendra compte. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit.
Il y avait plusieurs questions qui se demandaient à quel moment le policier est habilité à faire usage de la force vis-à-vis d'un suspect ou d'une personne menaçante. Et c'est quoi les règles à respecter en la matière? Parce que, voilà.
Les règles fondamentales, ça repose en trois mots. L'égalité. D'abord, le but poursuivi doit être légal. C'est l'opportunité et la proportionnalité. Donc, si une petite vieille m'agresse avec son parapluie, c'est sûr que je vais me défendre à la main nue et rien de plus. Hein, et je vais écarter son parapluie. Hein. Donc, c'était un exemple un peu tarte à la crème, si je peux dire. Mais en fait, c'est ça. Il ne faut pas oublier non plus que le policier a peut-être une ou deux secondes pour évaluer la situation et devoir se protéger ou protéger l'intégrité physique de quelqu'un d'autre.
Oui. Mais donc, vous savez, aux yeux de la loi, un policier a le droit de tout donner des coups à un individu s'il estime que voilà, son intégrité physique est menacée.
On parle d'usage de la contrainte et de la force. On parle pas. Voilà, c'est les termes qui sont employés par la loi sur la fonction de police.
Oui, Eddy Lebon.
On parle souvent, comme dans ce cas avec le spray au poivre, d'un usage abusif du spray. Mais dans beaucoup d'autres circonstances, songeons à cet adepte de Sharia for Belgium qui a essayé d'égorger deux policiers à Molenbeek. Les policiers, il était évidemment armé d'un couteau. Les policiers ont eu un sang-froid extraordinaire. Ils étaient en droit, de faire usage de leur arme à feu, mais non, ils ont pu le maîtriser. Dans énormément d'autres cas qu'on pourrait citer, il y a un usage très modéré de cet armement. Il faut voir aussi que, malheureusement, entre le spray au poivre et l'arme à feu, il n'y a pas une arme intermédiaire, par exemple, pour pouvoir maîtriser ces gens qui sont armés de couteaux. Et ça arrive de plus en plus souvent, ce genre d'agression contre les policiers.
Oui. Alors, on a vaguement évoqué tout à l'heure l'idée d'installer des bodycams sur les policiers, donc des mini-caméras qui filmeraient tout ce qui se passe lors d'interventions et qui permettraient d'avoir une vision peut-être plus objective de ce qui s'est passé. Vous en pensez quoi?
ça peut être une bonne solution. Je vois la DH ce matin, un voleur met des coups de boule à un mur pour faire croire à une violence policière. Mais là, pas de chance pour lui, il était filmé. Et bien évidemment, dans certains cas, mais c'est à étudier, au moins étudions la possibilité, peut-être que cette bodycam pourrait servir en matière de preuve, à charge ou à décharge.
Oui. Olivier Stein, plus de caméras dans les commissariats, les bodycams.
Je l'ai dit, pour moi, c'est une question de volonté derrière tout cela. Quand on voit que tout se passe toujours dans les zones où les caméras ne filment pas, moi, c'est pas la caméra qui va m'apporter des apaisements. Pour moi, ce qui compte, c'est une volonté des services indépendants qui effectuent un véritable contrôle. Et donc, tout se situe au niveau d'une volonté que cela change, une volonté d'avoir un contrôle indépendant. Et après, les modalités ont moins d'importance parce que je pense que si cette volonté existe, on peut éviter ces situations où finalement, on se limite à une parole contre une autre.
Oui. Une réflexion de Réginald dont je voulais vous faire part qui dit « Il faut également relever que les personnes victimes de violences policières dont on parle ont porté plainte, ont fait entendre leur voix dans les médias. Songez à toutes celles et ceux qui n'ont pas fait ces démarches et je pense entre autres aux personnes en séjour illégal, notamment. »
Tout à fait. Donc c'est souvent le problème que l'on rencontre, c'est que dans les chiffres, on peut toujours évidemment faire dire beaucoup de choses aux chiffres, mais il y a énormément de personnes qui se disent « je ne vais pas déposer plainte, on ne me croira pas, je suis moi-même dans une situation délicate parce que j'ai vraiment commis une infraction, parce que je suis en situation irrégulière et que la situation peut être délicate, ou parce que j'habite dans le même quartier, que je ne veux pas avoir des problèmes avec les policiers qui sont les représentants de l'autorité sur place. » Et donc, il est d'autant plus important que le contrôle soit efficace, ce qui pose souvent problème en pratique, et c'est ce qu'on constate. Le contrôle n'est pas encore suffisant. Et il est normal qu'il y ait un contrôle. J'entendais qu'on disait tout à l'heure, oui, ils sont soumis à deux contrôles. Mais attendez, ils ont aussi un pouvoir. Et donc, c'est normal qu'il y ait un contrôle par rapport au pouvoir dont ils disposent.
Merci Laurent Quenez d'avoir été avec nous ce midi. Hein, avocat pénaliste, maître de conférence à l'ULB. Merci à tous d'avoir été là. Le commissaire Eddy Lebon, secrétaire national du syndicat de la police CIPOL. Merci Roland Thibault également, coordinateur opérationnel et porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, Scarbeck, Saint-Josse et Evers. Et puis merci à vous, Olivier Stein, avocat et membre de la Ligue des Droits de l'Homme. Merci également à Valérie Lepute pour la préparation de cette émission ainsi qu'à Frédéric Perrard pour sa réalisation. Midi 56 minutes, dans quelques instants vous avez rendez-vous avec le journal de 13h sur la première. Excellent après-midi avec nous, bon week-end également et à lundi pour un autre forum.
Retrouvez le forum de midi tous les jours de la semaine de midi à 13h sur la première.